Les nouveaux chemins vous ouvrent leur château tous les matins entre 10h et 11h en compagnie des Ladies Mosna Savoie, Chasseurs et Grossi, avec à leur côté les Lords Ravon et Grenatia et Gesselle cette semaine, à la concoction de sherry dans des verres en cristal Lady Portis, avec aujourd'hui à la prise de son notre maître à tous, Bruno Gagnère Fontanille. Lorsque l'horloge de la Duchesse indiquera 10h51, notre serviteur vous proposera du thé et Géraldine Mosna Savoie s'installera en studio pour ses 2 minutes Butterfly. Géraldine qui aujourd'hui vous donnera envie de vous faire lire un ouvrage sur l'essence du poil grec, poil P-O-I-L, par Pierre Brûlé, publié aux éditions des Belles Lettres.
I am the butler at Downton, my name is Carson. This is Thomas, first footman.
Bienvenue à Downton Abbey, propriété majestueuse qui appartient à la famille Crawley-Grantham. Le comte, sa femme et leurs 3 filles vivent paisiblement dans ce château au milieu d'un domaine somptueux quand le 15 avril 1912 est annoncé au matin le naufrage du Titanic, au bord duquel voyageait l'un des 2 héritiers potentiels de Downton. Il n'en faut pas plus pour troubler la paix du petit déjeuner. Le drame, ce n'est pas la rencontre entre le bateau et l'iceberg, image de la modernité vacillante sans doute, mais l'embarras de la famille Crawley dont aucune des 3 filles, Mary, Edith et Sibyl, ne peut hériter de la demeure familiale. Bien sûr, aucun cri ne sortira des nuques rehaussées de colliers de perles et le gant blanc de Carson, le majordome, ne trahira aucune émotion en servant le thé. Et pourtant, cette émotion est bien grande et la famille est en passe de perdre son plus grand bien. Dans cette rencontre entre drame historique et crise familiale tout en retenue et en délicatesse, se trouve l'âme de cette série créée par Julian Fellowes en 2010 et qui esquisse chaque année, depuis, à la manière d'un feuilleton sentimental digne des plus grands mélodrames, l'évolution d'une société qui va progressivement glisser de l'aristocratie vers la démocratie. Alors comment cette famille va-t-elle symboliser la perte d'un monde ancien ? Comment la mise en scène de ces péripéties familiales nous renseigne-t-elle sur la spécificité de l'évolution politique en Angleterre au début du XXe siècle? Et que nous dit la séparation entre les maîtres d'un côté et les serviteurs de l'autre, sachant que les plus conservateurs ne sont pas toujours du côté attendu? Eh bien, pour répondre à ces questions aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir la philosophe Céline Spector, qui est venue aujourd'hui en donnant le bras à Alexis de Tocqueville.
Je suis arrivé en Angleterre avec la persuasion que le pays était sur le point d'être précipité dans les malheurs d'une grande révolution. Mon opinion est en partie changée sur ce point. Si on appelle révolution tout changement capital apporté dans les lois, toute transformation sociale, toute substitution d'un principe régulateur à un autre, l'Angleterre est assurément en état de révolution. Car le principe aristocratique, qui était le principe vital de sa constitution, perd chaque jour de sa force. Et il est probable que dans un temps donné, le principe démocratique aura pris sa place. Mais si on entend par révolution un changement violent et brusque, l'Angleterre ne me paraît pas mûre pour un semblable événement. Et je vois même bien des raisons de penser qu'elle le soit jamais. Le pouvoir de l'aristocratie en Angleterre, qu'on pourrait appeler la domination des classes riches, perd cependant chaque jour de son étendue. Ceci résulte du mouvement général imprimé à l'esprit humain dans tout le monde de nos jours. Le siècle est éminemment démocratique. La démocratie ressemble à la mer qui monte. Elle ne recule que pour revenir avec plus de force sur ses pas. Et au bout d'un certain temps, on aperçoit qu'au milieu de ces fluctuations, elle n'a cessé de gagner du terrain. La marche irrésistible des choses amène donc au développement graduel du principe démocratique. Ainsi, chaque jour, on s'attaque à quelques nouveaux privilèges de l'aristocratie. On lui fait une guerre lente et de détail, mais qui finira infailliblement avec le temps par la détruire.
Cousin Robert, did you see that the King is going to speak on the wireless? It was in the paper today.
Don't be silly.
No, it's true. For the opening of the British Empire exhibition, it's being broadcast on the 23rd. Just thought you'd like to know.
Is this true, Carson?
I believe so, my lord.
Talking about the Empire too. I wonder. If the king wants to use the wireless to speak to his people, maybe we have to listen.
Est-ce vrai, Carson?
Je le pense en effet, monsieur le comte. Il parlera de l'Empire en plus.
Je m'interroge. Si le roi veut utiliser la TSF pour s'adresser à son peuple, peut-être devons-nous l'écouter.
Je ne dirai pas cela, monsieur le comte. Ne s'agirait-il pas plutôt d'une tâche humiliante à laquelle les ministres obligeraient le roi à se soumettre ?
Insinuez-vous que le roi est un homme faible, Carson ?
Jamais de la vie, monsieur le comte. Mais même les rois sont obligés de céder à la pression, parfois.
Dans ce cas, ne devrions-nous pas le soutenir dans cette épreuve ? Allez, courage. Nous pouvons toujours en louer une. Elle ne parviendra sûrement pas à nous corrompre si elle ne reste ici qu'une journée.
It gives me the greatest pleasure and satisfaction to come here today with the Queen for the purpose of opening the British Empire Exhibition.
I suppose he can't hear us. No, it doesn't work like that.
To the Board of Management.
Bonjour Céline Spector.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance. C'est un plaisir de vous accueillir pour y parler de Downton Abbey et de Tocqueville. Est-ce que vous aussi, vous avez été surpris, voire bluffé par les points communs, disons, entre eux, de la démocratie en Amérique de Tocqueville ou Voyage en Angleterre de 1833, dont on vient d'entendre un extrait, et la série, à tel point qu'on a l'impression que parfois que ces textes sont comme une explication de texte, justement, de la série Downton Abbey.
Alors, c'est absolument impressionnant. Tocqueville a été pensé, mûri, mis en scène, orchestré dans la série de manière assez incroyable. Et en particulier, disons, dans le texte qui vient d'être lu, cette idée qu'il peut y avoir une révolution sourde, lente et graduelle en Angleterre, mais que celle-ci n'a pas eu lieu, comme en France, hein, au moment de la Révolution française en 1789. L'Angleterre n'a pas connu sa nuit du 4 août, l'abolition des privilèges, la fin de la société d'ordre. L'Angleterre a une histoire un peu plus curieuse, puisque elle a connu une révolution démocratique et puritaine au XVIIe siècle, un régicide en 1649. Elle a connu une révolution glorieuse, dont il est d'ailleurs question à un moment dans la série, pour rééquilibrer les rapports du roi et du Parlement, mais elle n'a pas connu une forme d'abolition violente et brutale de l'aristocratie. Et donc, en ce sens, ce qu'on voit dans la série, c'est effectivement la survivance d'une forme d'aristocratie dont le prestige et le pouvoir, la richesse surtout, sont écornés, mais qui, au fond, subsiste comme avant la Révolution française en France. C'est l'ancien régime qui survit dans un siècle démocratique. Et il me semble que Tocqueville a effectivement perçu cela, c'est-à-dire que c'est les siècles démocratiques, l'état social démocratique, ce qu'il appelle le fait générateur de la démocratie, va avoir une incidence majeure sur, évidemment, ces vestiges, cette société déclinante.
De même que Tocqueville, en Amérique et en Angleterre, observe ses contemporains et passe de nombreuses pages à décrire les mœurs, l'évolution de ces mœurs de manière très imagée, très précise. De même, la série nous donne à voir cette transition politique au sein d'une seule famille, dans un domaine, et chacun des personnages va endosser un rôle bien particulier qui va essayer de traduire cette évolution de la société. Avec cette spécificité qui, là, pour le coup, fait le miel et l'intérêt de cette série, qui est le passage par les détails. Dans le texte qu'on a entendu, Tocqueville disait à l'aristocratie, on lui fait une guerre lente et de détails, mais qui finira infailliblement avec le temps par la détruire. Ce que venait illustrer l'extrait qu'on a entendu ensuite, l'insertion, l'apparition de la radio dans le foyer des Grantham constitue une révolution à part entière, et surtout on peut entendre le roi parler. Là on a comment la série met en scène, vraiment, au sens propre du terme, cette évolution politique et sociale à travers les petits détails.
Cette scène est extraordinaire, c'est l'introduction d'un médium démocratique qui va en quelque sorte altérer l'esprit de la monarchie. Il faut voir la scène, c'est-à-dire que toute la famille est assise en rond, en quelque sorte, autour de cette radio énorme, le wireless, la TSF, et ils se lèvent tous, maîtres et serviteurs, au moment où le roi s'adresse à eux. Il pense vraiment qu'il s'adresse à eux en personne. Évidemment, s'ensuit toute une discussion très intéressante sur le roi va-t-il déchoir de son piédestal ? Et certains pensent qu'il est bon que le roi s'adresse enfin à son peuple. D'autres, comme Violet, pensent que la monarchie est fondée sur le mystère et la magie et que, de ce fait, rendre le roi plus humain, c'est en un sens détruire l'esprit même de la monarchie. Et donc, on a vraiment cette question de savoir si le roi est l'un d'entre nous. Il n'est plus ce lieutenant de Dieu. Il n'est plus, disons, cette instance transcendante et qu'il faut respecter comme un ordre sacré. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose avec cette scène de la radio qui est effectivement l'immanence du rapport au pouvoir qui va être, disons, le témoin des siècles démocratiques.
Et est-ce que on pourrait faire ce parallèle entre le point de vue de Tocqueville qui décrit cette transition démocratique dont il parle, parfois en montrant les aspects positifs, parfois en dénonçant les aspects plus négatifs, dans une forme de neutralité peut-être un peu mélancolique parfois, et la famille Grantham elle-même qui ne peut qu'assister à cette évolution en étant les acteurs malgré eux finalement. Les deux se tiennent, je crois.
Alors, ils sont acteurs malgré eux du déclin nécessaire de leur ordre. En un sens, l'effondrement du Titanic, le fait que le Titanic sombre annonce et prophétise la fin de l'aristocratie elle-même, mais en un autre sens, ils essaient à tout prix de maintenir leurs privilèges, leurs distinctions, l'esprit de caste qui est le leur, et ils sont sans cesse absolument désireux de s'éloigner du vulgaire, du commun, et de maintenir leur manière. Et c'est par leur manière, par leur code de l'honneur, par leur code de la politesse, qu'ils se distinguent encore finalement du peuple, qu'ils ne voient presque jamais, sinon sous la forme des domestiques, hein, avec cette division de la maison, qui est chez Tocqueville aussi, en un sens, entre... Voilà. Upstairs et downstairs. Et au début de la série, il n'y a presque pas de communication entre les deux, sinon par ceux qui effectuent le service à table ou dans les chambres. Et puis, petit à petit, on va avoir tout au long l'évolution de la série, plus de porosité entre le haut et le bas. Bon, on en reparlera peut-être, mais le simple fait qu'un chauffeur ensuite puisse faire partie de la famille, mais il y aura aussi d'autres moments de confusion des genres, atteste du fait que la séparation des ordres, la séparation des rangs n'est plus aussi stricte. Et donc, l'esprit de cas va du coup avoir plus de mal à perdurer.
On peut le raconter d'emblée, finalement, le personnage auquel vous faites référence, c'est Tom Branson, qui au début de la série est le chauffeur de la famille et qui va épouser la troisième des filles de la famille, elle, noble. Donc là encore, cet événement qui pourrait être un micro-événement constitue une révolution au sein du foyer et témoigne de l'évolution du siècle lui-même. C'est que désormais, ce qu'on peut appeler les classes, qui sont en fait comme des castes très séparées, ne sont plus séparées par une frontière aussi poreuse.
Oui, tout à fait. Et la révolution démocratique va beaucoup passer par les femmes. Les trois femmes et leur émancipation progressive, alors chacune à leur manière. Disons, Sibylle est la plus jeune, elle va avoir des aspirations féministes, vouloir soutenir certaines de ses, domestiques, dans leur aspiration aussi à l'émancipation. Elle va épouser en effet son chauffeur, qui est un socialiste, un radical, qui soutient l'indépendantisme irlandais, et qui va soutenir son aspiration à elle, qui est de défendre la cause des femmes. Évidemment, on est aussi en arrière-fond au moment du combat des suffragettes, qui va se traduire en 1918 par l'octroi du droit de vote aux femmes à partir de 30 ans. Bon, alors évidemment, c'est pas encore parfait, mais c'est un peu mieux qu'en France. Effectivement, et on voit toujours en arrière-fond de cette série le fait que les femmes vont aspirer à occuper un nouveau rôle dans la société. Et en un sens, c'est leur lutte démocratique au sein de la famille qui va aussi entraîner la transformation des rapports sociaux. Donc évidemment, on n'est pas du tout dans le modèle de la Révolution française.
Et le génie, là encore, d'avoir choisi trois filles, finalement, comme héritières de ce domaine, et pas d'hommes. C'est-à-dire que ce soit par les filles que l'on va pouvoir lire dans les détails, encore une fois, dans les toilettes, les costumes, le maquillage, les actions aussi, cette évolution elle-même de la société, cette fois-ci à travers les mœurs. Un point encore avant d'écouter un autre extrait. Lorsque Tocqueville décrit l'évolution démocratique aux États-Unis, il faut bien s'entendre sur un point, c'est-à-dire que cette évolution est certes politique, mais elle est aussi, et peut-être avant tout, sociale. C'est pour ça que j'insiste sur l'importance de l'observation des mœurs au sein de la société et au sein de la série elle-même.
Oui, absolument. Et Tocqueville est le premier à constater ce phénomène extrêmement curieux, dans l'optique comparatiste qui est la sienne. Les Américains sont à l'origine des Anglais. Ils ont la même origine, la même langue, la même religion que les Anglais. Ils ne diffèrent des Anglais que par leur état social. Leur état social est démocratique. Alors qu'en réalité, le principe aristocratique demeure en Angleterre. Et donc, tout ce qui va animer et faire le ressort dramatique de la série, c'est effectivement la pénétration progressive de l'état social démocratique dans un pays qui a conservé l'esprit des siècles aristocratiques.
Longtemps avant que la jeune américaine ait atteint l'âge nubile, on commence à l'affranchir peu à peu de la tutelle maternelle. Elle n'est point encore entièrement sortie de l'enfance que déjà elle pense par elle-même, parle librement et agit seule. Devant elle est exposé sans cesse le grand tableau du monde, et loin de chercher à lui en dérober la vue, on le découvre chaque jour de plus en plus à ses regards, et on lui apprend à le considérer d'un œil ferme et tranquille. Ainsi, les vices et les périls que la société présente ne tardent pas à lui être révélés. Elle les voit clairement, les juge sans illusion et les affronte sans crainte, car elle est pleine de confiance dans ses forces et sa confiance semble partagée par tout ce qui l'environne. Il ne faut donc presque jamais s'attendre à rencontrer chez la jeune fille d'Amérique cette candeur virginale au milieu des naissants désirs, non plus que ces grâces naïves et ingénues qui accompagnent d'ordinaire, chez l'européenne, le passage de l'enfance à la jeunesse. Il est rare que l'américaine, quel que soit son âge, montre une timidité et une ignorance puérile. Comme la jeune fille d'Europe, elle veut plaire, mais elle sait précisément à quel prix. Si elle ne se livre pas au mal, du moins elle le connaît. Elle a des mœurs pures, plutôt qu'un esprit chaste.
You must be mad.
I am. I am in the grip of madness.
Please leave at once, or I'll...
Only one.
I'll scream.
No, you won't.
You and my parents have something in common. You believe I'm much more of a rebel than I am. Now, please, go. He's dead. No, I'm sure he's dead.
Non, je suis sûre qu'il est mort.
Mais comment?
Nous étions ensemble et... Et il est mort.
Dans votre chambre? Nous devons d'abord le ramener dans son lit.
Mais comment? Il est dans l'aile des célibataires à des kilomètres de ma chambre.
Pourrons-nous le transporter toutes les deux?
Il pèse une tonne. J'ai à peine réussi à le bouger. Il faut au moins quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Bates?
Il ne pourrait pas le soulever.
Que s'est-il passé?
Je ne sais pas. Une crise cardiaque, je suppose, ou une attaque cérébrale, ou... Il était vivant quand soudain il a poussé un cri, et après il est mort.
Mais que faisait-il ici, de toute façon? Était-il venu te violer? Très bien. Nous en reparlerons un autre jour. C'est trop. Je ne pourrai pas.
Si vous refusez, nous nous retrouverons au cœur d'un scandale d'une telle ampleur qu'il restera dans les mémoires longtemps après notre mort à toutes les deux. Je serai totalement ruinée, maman. Ruinée et déshonorée. Je serai la risée, considérée comme une paria. Est-ce là tout ce que vous souhaitez à votre fille aînée? Est-ce là tout ce que vous souhaitez à notre famille?
Je crois que je ne pourrai jamais te pardonner ce que tu m'as fait subir cette nuit. J'espère qu'avec le temps, je me montrerai plus clémente. Mais j'en doute.
Vous ne direz rien, papa.
Comme cela risquerait probablement de le tuer, en tout cas de détruire sa vie, je ne le ferai pas. Mais c'est pour lui que je garde le secret, pas pour toi.
Oui, maman.
Anna? Je n'insulterai pas votre intelligence en vous demandant également de cacher la honte de Lady Mary.
Pour une fois, c'est l'inspecteur, je dois dire que le doublage en français n'est pas aussi crispant qu'il peut l'être parfois. On entend quand même dans la voix toute l'émotion et l'impossibilité pour Mary de faire face à ce qui lui arrive. En clair, elle a couché avec un diplomate turc. On est au troisième épisode de la première saison. Alors qu'évidemment, on est dans une société où on ne couche pas avant le mariage, elle n'est pas du tout mariée, elle connaissait à peine ce jeune homme. Celui-ci, manque de chance, meurt d'une crise cardiaque dans son lit, donc il va falloir essayer de déplacer ce corps hors de la chambre, donc le dire à d'autres personnes, et donc s'exposer à une honte générale, c'est l'inspecteur.
Oui, c'est la crainte du déshonneur qui est la menace principale, la crainte du scandale, et toute la série est construite aussi sur ce ressort, le gossip, la crainte de l'atteinte à la réputation, qui est évidemment le cœur de l'honneur familial. Alors, ce qui est caractéristique ici, c'est que Mary incarne, contrairement à Sibyl qui incarne, disons, une figure politique, Mary incarne une figure de la sensualité. Et son émancipation, elle, va être l'émancipation du corps, l'émancipation sensuelle, c'est-à-dire qu'en réalité, tout au long de la série, elle va transgresser un certain nombre de règles qui sont plutôt des règles relatives aux mœurs et à la chasteté des femmes. Un peu plus tard, à la cinquième saison, elle va oser partir en cachette avec un homme qui va devenir son amant et qu'elle finira finalement par ne pas épouser. Évidemment,
elle dit qu'elle le teste aussi, parce que celui-ci veut la demander en mariage, voilà. Elle dit j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur vous,
voilà. Et
y compris
elle,
sexuellement, c'est quand même très subversif.
Absolument, et c'est elle qui choisit. C'est-à-dire que finalement, c'est elle qui va choisir son mari. Évidemment, c'est totalement contraire au principe des mariages arrangés. Bon, il faut rappeler quand même que Cora, la mère, est américaine. Évidemment, c'est très important. Elle a apporté sa dot pour sauver un aristocrate anglais qui n'était plus finalement capable d'assumer, en un sens, une aussi grande propriété. Et donc, toute la question va tourner autour de l'honneur familial. Donc, l'honneur, c'est pouvoir effectivement maintenir sa maison, tenir son rang, mais c'est aussi, pour les femmes, pouvoir faire de beaux mariages. Et donc, en un sens, Mary, elle transgresse évidemment ce principe. Elle se marie d'abord avec un avocat, presque un roturier, hein, qui va finalement s'intégrer à la famille et puis qui finira par mourir. Et puis, elle va ensuite mener une vie assez libre. Et donc, en fait, c'est par la liberté des mœurs qu'elle impose, elle, un principe de démocratisation.
Et là encore, Tocqueville nous est bien utile parce que finalement, ce que Tocqueville montre aussi, c'est que dans une société qui tend vers l'égalisation et qui peut avoir ce qu'il appelle cette passion de l'égalité, eh bien, ce n'est pas forcément incompatible avec une forme de liberté, mais qui celle-ci est simplement individuelle. En clair, Marie, qui sous ses airs extrêmement conservatrices, qui méprise sa jeune sœur, qui elle va travailler dans la presse, quelle horreur, hein, le médium démocratique par excellence, qui est toute empreinte de bonne manière, eh ben. Dans sa vie privée qui ne regarde qu'elle, est beaucoup plus libérée qu'elle n'en a l'air.
Absolument. Et donc, on a ces trois figures de l'émancipation. Sibylle, politique, Mary, sensuelle, et Edith par le journalisme. C'est effectivement une ascension professionnelle. Alors, disons que ces trois femmes vont causer scandale, et Robert, le père, hein, la figure du patriarche, à chaque fois va réagir de manière extrêmement négative, puisqu'il se considère comme l'organe de la tradition. Et là encore, Tocqueville nous dit très bien, hein, c'est la question du déclin de l'autorité paternelle. Hein, c'est-à-dire que quand on passe des siècles aristocratiques aux siècles démocratiques, l'autorité paternelle décline. Elle va être altérée. Et en particulier, avant, hein, dans les siècles aristocratiques, le père, c'était pas seulement le chef politique de la famille, hein, c'était l'organe de la tradition, c'était l'interprète de la coutume, c'était l'arbitre des mœurs, et tout d'un coup, il va être détrôné, lui, en un sens, comme le monarque.
Vous parliez de l'importance de l'honneur. Là encore, Tocqueville nous est utile, puisqu'il montre bien que dans ces deux classes très différentes, chez les peuples aristocratiques, hein, dit-il, les serviteurs forment une classe particulière qui ne varie pas plus que celle des maîtres. Et la spécificité de ces deux classes, qui les sépare, se retrouve sur un point, c'est l'importance du code d'honneur. Et là, la série le montre à merveille, puisque finalement, lorsqu'on descend au sous-sol, disons là où vivent les domestiques et les serviteurs, on retrouve exactement les mêmes hiérarchie que l'on trouve au-dessus, plus haut dans la maison, et cette défense d'un honneur qui laisse penser que par-delà les classes, il y a bien une l'humanité finalement s'accorde à valoriser la même chose, qui est ce respect de soi, la dignité et le code de l'honneur.
Absolument. Et en ceci, Tocqueville est un disciple de Montesquieu, hein, qui avait bien compris que l'honneur, c'est le principe de la monarchie et des siècles aristocratiques, hein, qu'il est fondé sur l'inégalité des conditions, qu'il demande le respect des préséances et le désir des titres. Alors, ce qui se passe dans la série et qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a un honneur servile, hein, qui est, disons, extrêmement puissant en bas, et peut-être même encore plus en bas qu'en haut. Hein, c'est-à-dire que en bas, on va être attaché aux moindres privilèges, aux moindres préséances, au respect scrupuleux du protocole. C'est le majordome, hein, Carson, le butler, qu'on a entendu au début de l'émission, qui est en quelque sorte le gardien du sens de l'honneur, de la dignité, du statut, du fait qu'il faut tenir son rang. Enfin, tout ça, c'est lui qui incarne en un sens l'idéologie aristocratique par excellence.
Beaucoup plus fortement d'ailleurs que les aristocrates eux-mêmes. C'est là où c'est très intéressant, c'est que finalement c'est en bas que le gardien du temple se trouve.
Le gardien du temple est en bas, même si Robert, hein, évidemment, essaye lui aussi, hein, de faire maintenir le sens de l'honneur.
Il essaye, mais le personnage est moins fort finalement. On s'amuse toujours de lui, de voir qu'il finit par céder à sa femme ou à ses filles, et qu'il a cette espèce de, peut-être de mollesse de caractère qui le rend moins dangereux que Carson, qui lui au contraire s'affirme très fortement et se révolte de cette évolution.
C'est vrai que Carson est sans doute le personnage le plus charismatique de la série, et c'est lui qui absolument veut maintenir les règles de l'étiquette, les règles de la politesse, le code du savoir-vivre et des manières de manière indéfectible, et envers et contre tout. C'est lui qui dit qu'il ne peut pas s'habituer à l'idée que la vie n'est pas permanence mais flux. Il y a une sublime phrase à un moment. C'est lui qui refuse l'éducation des filles, en particulier certaines domestiques, hein, un peu plus tard, à la saison 5. Il refuse l'émancipation par le savoir pour les femmes parce que, dit-il, c'est inutile dans ce qu'il appelle « the scheme of things », l'ordre des choses, tel qu'il le voit de manière inaltérable. Hein. Et donc, il ne supporte absolument pas le changement, le fait que les traditions pérennes puissent en quelque sorte s'éroder.
Et il aime son maître plus que lui-même. Alors je vous propose d'écouter le personnage de Carson, puisqu'on vient d'en parler, personnage sublime en effet, plus surprenant qu'il en a l'air, parce qu'il y a un moment, au début de la première saison, on découvre qu'il a un passé douteux, que celui-ci, même s'il est extrêmement servile et obéissant à son maître, a eu une vie passée, un mystère qui n'appartient qu'à lui. Il a été danseur au Music Hall. Alors écoutons la manière dont il pense se justifier de ses actes auprès de son maître, suivi d'un extrait de La démocratie en Amérique de Tocqueville, la deuxième partie, chapitre intitulé « Comment la démocratie modifie les rapports du serviteur et du maître ».
I'm sorry, your lordship. Mr. Bates, you may go now.
Stay where you are. Nobody's going anywhere. Do I take it you know this man?
His name is Charles Grigg. We worked together at one time.
Oh, I'm a little more than that, aren't I, Charlie? We're like brothers, him and me.
We are not like brothers.
We were a double act on the halls.
You were on the stage?
Vous avez fait de la scène? Carson, dit-il la vérité?
Eh oui, monsieur le comte.
Les joyeux Charlie, c'était notre nom de scène. On se débrouillait bien, pas vrai?
Jusqu'à ce que tu te mettes à te servir dans la caisse.
Voulez-vous qu'on vous laisse, monsieur Carson?
Non, vous êtes au courant maintenant. Autant que vous restiez jusqu'au bout pour me voir me repentir. Il a débarqué au village sans prévenir il y a de cela 8 jours. Il était en fuite. Il voulait que je lui trouve un endroit où se cacher et évidemment de l'argent.
Dieu tout-puissant.
Il est recherché pour de petits délits dont il est bien sûr coupable.
Oui, bah, c'est bon.
Il a menacé de dévoiler mon passé et de me ridiculiser au sein de cette maison. Et par excès de vanité et de fierté, je lui ai donné ce qu'il voulait.
C'est toi qui le dis.
Je l'ai installé dans une des dépendances inoccupées et je lui ai donné de la nourriture que je prenais à la cuisine. Je ne pouvais pas acheter à manger au village, ça aurait soulevé trop de questions. J'ai volé. Je suis un voleur. Monsieur le comte, je vous donne ma démission.
Bon, écoutez, Carson, inutile de dramatiser, vous ne jouez pas dans une tragédie grecque. Je vais vous donner 20 livres et vous allez quitter Downton dans les plus brefs délais. Et nous ne vous reverrons plus jamais dans les parages.
Vous croyez être un grand homme. Parce que vous êtes un lord, vous croyez tout permis avec moi.
Si je le crois, c'est parce que c'est la vérité.
Vous ne ferez pas toujours la loi, vous savez. Le jour viendra où vous autres, vous devrez vous plier aux règles, comme tout le monde.
C'est possible. Mais heureusement pour Carson, ce jour n'est pas encore là.
Dans les aristocraties, le serviteur occupe une position subordonnée, dont il ne peut sortir. Près de lui se trouve un autre homme, qui tient un rang supérieur qu'il ne peut perdre. D'un côté, l'obscurité, la pauvreté, l'obéissance à perpétuité. De l'autre, la gloire, la richesse, le commandement à perpétuité. Ces conditions sont toujours diverses et toujours proches. Et le lien qui les unit est aussi durable qu'elle-même. Dans cette extrémité, le serviteur finit par se désintéresser de lui-même. Il s'en détache, il se déserte en quelque sorte. Ou plutôt, il se transporte tout entier dans son maître. C'est là qu'il se crée une personnalité imaginaire. Il se pare avec complaisance des richesses de ceux qui lui commandent. Il se glorifie de leur gloire, se rehausse de leur noblesse, et se repaît sans cesse d'une grandeur empruntée, à laquelle il met souvent plus de prix que ceux qui en ont la possession pleine et véritable. Il y a quelque chose de touchant et de ridicule à la fois dans une si étrange confusion de deux existences. Ces passions de maître transportées dans des âmes de valets y prennent les dimensions naturelles du lieu qu'elles occupent. Elles se rétrécissent et s'abaissent. Ce qui était orgueil chez le premier devient vanité puérile et prétention misérable chez les autres. Les serviteurs d'un grand se montrent d'ordinaire fort pointilleux sur les égards qu'on lui doit, et ils tiennent plus à ses moindres privilèges que lui-même. On rencontre encore quelquefois parmi nous un de ces vieux serviteurs de l'aristocratie. Il survit à sa race et disparaîtra bientôt avec elle.
France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, il est 10h30, le good old fashioned lover boy que chante Queen, c'est bien Carson, le majordome de la série Downton Abbey dont nous parlons aujourd'hui en compagnie de la philosophe Céline Spector, qui a notamment fait paraître cette année qui a dirigé un volume collectif, Le sens de la justice, une utopie réaliste, Rawls et ses critiques, paru chez Classique Garnier, ainsi que tout récemment Rousseau, les paradoxes de l'autonomie démocratique, publié chez Michelon.
In the good old fashioned school of lover boys. Dining at the Ritz, we'll meet at night. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Dans cette extrémité, le serviteur finit par se désintéresser de lui-même, ou plutôt il se transporte tout entier dans son maître. Ce que décrit Tocqueville dans ce texte, l'inspecteur, c'est plus qu'une relation d'obéissance, c'est une relation d'amour entre le serviteur et son maître.
Oui, alors ce texte de Tocqueville est absolument extraordinaire. C'est un des chapitres peut-être les plus brillants de la démocratie en Amérique. Tocqueville étudie successivement donc les effets de l'état social démocratique sur les idées, sur les mœurs, sur les sentiments. Et là, on est vraiment au cœur de l'influence sur les mœurs, c'est-à-dire au sein de la maison elle-même, comment effectivement l'état social démocratique va transformer en profondeur les rapports entre le maître et le serviteur. Tocqueville nous dit bien, la démocratie pourra encore connaître des maîtres et des serviteurs, mais ils n'auront plus jamais les mêmes rapports, effectivement, d'affection, de protection pour les maîtres et de bienveillance à l'égard des serviteurs, qui effectivement étaient au cœur des rapports sociaux aristocratiques. Alors, ce que Carson incarne, c'est évidemment le serviteur d'élite, comme dit Tocqueville, celui qui est entièrement dévoué, entièrement loyal, qui est prêt à tout en un sens pour ses maîtres, qu'il considère comme sa seule véritable famille. Alors on apprend qu'il a un secret, comme à peu près tous les autres personnages de l'histoire. Tout le monde a un passé trouble, tout le monde a un secret, et finalement tout finit par se savoir, tout se sait, tout se voit, il y a des portes dérobées, c'est le ressort dramatique de la série. Et en l'occurrence, on apprend que Carson, cet homme absolument conservateur, qui veut absolument conserver l'ordre des préséances et du protocole, a un passé tout à fait curieux de chanteur de music hall et de danseur de music hall dans les Cheering Charlies. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait surprenant, dont évidemment il se sent déshonoré par cette révélation, bien malgré lui. Mais au fond, ce qu'on peut comprendre par là, c'est que dans les deux cas, dans la comédie du music hall ou dans la tragédie, ou en tout cas dans la scène aristocratique, dans les deux cas, il s'agit bien de représentation.
Dans les deux cas, il joue un rôle, c'est ce que lui dit son maître.
Il s'agit de jouer un rôle.
On n'est pas dans une tragédie grecque.
Bien sûr, mais en même temps, Carson, il accorde à son personnage la plus haute importance. Sans ce personnage, il n'est rien. Sans ce masque social, il n'est plus personne. Donc, au fond, c'est bien l'idée que le monde est un théâtre, le monde est une scène, tout est représentation, il y a un ballet, une chorégraphie, des serviteurs, des valets, etc. Mais, au fond, ce qui est le plus important, c'est que Carson est tout entier dans son masque et dans sa représentation sociale. Et ça, on le voit très bien dans une scène, à un moment où il se croit seul, et où il va, voir le petit bébé Sibyl, donc la fille de Sibyl qui est morte dans des circonstances tragiques, en donnant justement la vie à cet enfant. Et on le voit faire la risette à ce bébé. Et là, tout d'un coup, c'est plus du tout le même Carson. C'est effectivement quelqu'un d'extrêmement sentimental et pris sur le fait. Et il dit d'ailleurs, let's not be too sentimental. C'est-à-dire que bien sûr, là, on voit qu'évidemment, il a des sentiments, il a des émotions, il a des passions, mais tout ça est pris dans le carcan et la discipline de son personnage social. Et donc, ce qu'on comprend avec Tocqueville et dans la série, c'est effectivement à quel point le personnage social est en un sens tout dans les siècles aristocratiques.
Mais est-ce que ça veut dire qu'avec l'évolution vers une transition démocratique, ces masques-là vont tomber? Au fond, est-ce que la personnalité de Carson est toute empreinte d'une structure de la société qui fait qu'il y a d'un côté les serviteurs, de l'autre les maîtres, et du coup lui-même veut garder ça au risque de perdre son propre rôle? Ou est-ce que ça veut dire que finalement, cette personnalité-là, il pourra la conserver grâce à cet honneur, on parlait du code d'honneur, hein, y compris dans une socialité plus égalitaire?
Alors, il y a peu de chances que, effectivement, ce rôle du serviteur d'élite puisse se maintenir dans les sociétés démocratiques. De même que Tocqueville nous dit que le code de l'honneur lui-même va se transformer en profondeur lorsqu'on passera aux sociétés démocratiques. L'honneur, c'était en un sens l'éthos d'une caste à l'origine féodale, hein, qui avait des besoins très particuliers, très bizarres, très extravagants. Et Tocqueville nous dit que le code de l'honneur, c'est une manière d'attribuer la louange et le blâme. Et effectivement, c'était la manière dont une caste particulière avait fait le choix d'attribuer la louange et le blâme. Quand on passe dans les siècles démocratiques, l'honneur devient plus indéterminé, il devient plus général. Ce qui prédomine, c'est progressivement plutôt quelque chose comme la conscience morale. Le fait que les individus se considèrent cette fois-ci comme des semblables et des égaux a une influence majeure sur la manière dont ils vont entretenir des rapports mutuels. Et donc évidemment, Carson n'aura plus de sens. Il est déjà suranné, désuet et obsolète, hein, en un sens dans la série, mais on voit bien que lorsque la sociabilité deviendra plus égalitaire, il va en un sens perdre son sens lui-même. Il va devenir un personnage complètement absurde et ridicule. Et ce qui était considéré comme grandeur dans les siècles aristocratiques va devenir ridicule dans les sociétés démocratiques. On va avoir l'impression que ce rôle est totalement suranné.
Donc c'est la notion même d'honneur qui va disparaître, nous dit Tocqueville, dans la démocratie, de par l'égalité entre les hommes. Finalement, l'honneur est une façon de se distinguer dans un cas comme dans l'autre, alors que le nivellement par l'égalité, finalement, fait que nous n'avons plus besoin de ces distinctions pour revendiquer une appartenance. Du coup, on perd non seulement sa personnalité, mais des valeurs extrêmement profondes.
Oui, alors, ça, Montesquieu l'avait dit, et Tocqueville le reprend, en effet, c'est-à-dire que le code de l'honneur, c'est effectivement une manière de se distinguer. C'est le désir de distinction, de titre, de privilège, de préséance. Et le code de l'honneur, hein, qui notamment interdit de parler d'argent, c'est quelque chose de très important dans la série, puisqu'il y a quand même un problème d'argent majeur qui est comment va-t-on conserver Downton Abbey alors que les dettes sont si importantes, alors que la dette de Cora a été dissipée. Donc toute cette question de l'argent, du profit, normalement, dans des siècles aristocratiques où le code de l'honneur domine, on ne peut pas en parler, c'est déshonorant. Et donc on voit bien comment, petit à petit, par la force des choses, et notamment par le problème qui est posé par cette question d'argent et de patrimoine, et ben finalement, le code de l'honneur va devoir s'étioler. Hein. Il va devoir faire face, en quelque sorte, à une forme de modernité, qui est une modernité commerçante et qui va notamment obliger la famille à utiliser des méthodes de gestion plus rationnelles, à s'intéresser au profit, etc., etc. Et ça, c'est aussi un autre des ressorts dramatiques de la série.
L'évolution démocratique que nous dépeignons en parlant de la série Downton Abbey se retrouve aussi au sein de chaque génération, puisqu'il y a bien trois générations présentes, au moins dans ce château. Au sommet de cette famille se trouve un personnage absolument génial, très très réussi et très bien interprété. Il s'agit de la Lady Violet, qui est la mère de Lord Grantham, personne très âgée, qui ressemble un peu à la Lady Bracknell de Wilde, hein, dans tout en cynisme, en ironie, très délicate, très dure envers sa famille aussi, ce qui est un des ressorts comiques de la série qui fonctionne le plus. Écoutons-la, elle est ici avec Isabel Crowley, donc une forme de belle-fille qu'elle a, et elles vont chacune discuter de leur valet, Spratt, puisque les valets se disputent entre eux, les maîtres se disputent entre eux, et puis les ladies aussi vont se chamailler, écoutez.
Oh, what is the latest from your aging Romeo? If it's of interest, I haven't heard anything from him since you and I last met.
Oh, how disappointing.
To you, perhaps. Not especially to me. By the way, how is Spratt?
Well, I think, why do you ask?
He wasn't there to open the door. I wondered if he might be ill.
Oh, no, he's not ill. No, he's in Liverpool. His niece got married yesterday and Spratt had to take her down the aisle.
Oh, seems rather unlikely to think of Spratt with a private life.
Yes, unlikely and extremely inconvenient.
But you can't begrudge him that, surely. Servants are human beings, too.
Yes, but preferably only on their days off.
Au fait, comment va Spratt?
Bien, je crois. Pourquoi cette question?
Je ne l'ai pas vu à la porte. Je pensais qu'il était malade.
Oh non, il n'est pas malade. Il est à Liverpool. Sa nièce s'est mariée hier et c'est lui, son oncle, qui a dû la conduire à l'hôtel.
J'avoue avoir du mal à imaginer Spratt ayant une vie privée.
Moi aussi, je trouve surtout que c'est très dérangeant.
Mais vous ne pouvez pas lui en vouloir, les serviteurs sont des êtres humains comme nous.
Eh oui, mais de préférence durant leur jour de congé.
Thank you.
l'essence du snobisme est de chercher à faire une forte impression sur les autres. Un snob est une créature au cerveau papillonnant, au cerveau de lièvre tellement mal à l'aise avec sa propre position que pour la consolider, il balaie le visage des gens avec une distinction de manière à les faire croire et à l'aider à croire qu'il n'est pas vraiment être quelqu'un d'important. Quand j'étais petite fille, j'ai eu plusieurs occasions de snobisme. Une dame au charme délicat, d'une grâce si hautement éthérée que les grands qu'elle vous présentait étaient comme vaporisés, désinfectés et privés de leur vulgarité. Lorsque nous prenions le dîner ou le déjeuner avec la vieille Lady Bath, je m'asseyais là en tremblant d'extase faite de plaisir, de terreur, de rire et de stupéfaction. Alors cette fois-ci, c'est pas Tocqueville, mais Virginia Woolf qui nous fait le portrait de Lady Violet Crowley dans Swish Snob. Et donc finalement, ce qu'elle dit de cette, elle, sa propre Lady Bath, qu'elle connaissait, qu'elle regardait en tremblant d'extase, faite de plaisir, de terreur, de rire, de stupéfaction, c'est exactement les sentiments qu'inspire Lady Violet, interprétée par la comédienne Maggie Smith, au sein de sa propre famille, Céline Spector.
Oui, alors là aussi, on a un personnage extrêmement bien croqué, qui est absolument extraordinaire par son snobisme, par son cynisme en même temps, mais qui se veut la gardienne, elle aussi, indéfectible des traditions et des conventions. Et par elle, on a évidemment l'importance des conventions et des codes de politesse. Là aussi, la crainte du scandale en permanence, etc. Donc il faut bien garder, notamment face aux domestiques, toutes les apparences. Et ce qui est très intéressant, c'est que Violet est en concurrence, enfin en rivalité avec Isabelle, la mère de Matthew. À travers cette rivalité, dans la scène que vous nous avez fait entendre, ce qu'on comprend au fond, c'est qu'elle redoute par-dessus tout la démocratisation, évidemment, des conditions. Elle ne considère pas qu'un serviteur puisse avoir une vie privée en dehors de ses jours de congé. Elle considère qu'effectivement, il doit être tout à sa tâche, tout à sa dignité, lui aussi en représentation permanente. Et ce qui est important aussi, et on n'a pas encore eu le temps de l'aborder, c'est le fait que Lady Violet devient anachronique, comme à peu près tous les autres membres de la famille, à la suite de la Première Guerre mondiale. Et c'est quelque chose qui est très important dans la série. On voit encore une fois l'histoire en arrière-fond. La Première Guerre mondiale a eu un rôle essentiel parce que elle a bousculé les hiérarchies sociales qui étaient extrêmement figées. Elle a introduit des nouveaux leviers de mobilité à la fois sociale et domestique. Elle a libéré un certain nombre d'énergies qui étaient enfouies plus profondément. Et donc, Violet va se retrouver, comme Robert, le comte, un peu anachronique à la suite de la Première Guerre mondiale, et elle va devoir, en quelque sorte, alors pas s'adapter, parce que ça, c'est justement ce qu'elle refuse de faire, à tout prix, mais résister à un certain nombre de pressions qui sont sans cesse exercées sur leur manoir et qui leur viennent de l'extérieur. Et donc, comment maintenir les traditions et les conventions de la manière la plus rigide qui soit, alors que les nouvelles du dehors affluent et finalement, ils sont de plus en plus isolés dans leur mode de vie, dans leur style et dans leur grandeur, qui elle aussi devient de plus en plus empruntée. Dans le texte qu'on a lu de Tocqueville tout à l'heure, on avait ce syntagme grandeur empruntée, que Tocqueville d'ailleurs emprunte notamment lui-même à Pascal. C'est-à-dire que Tocqueville est très influencé par Montesquieu et par Pascal aussi, dans l'esprit. Et donc, cette idée que les grands vont avoir finalement, eux aussi, une grandeur empruntée et que ce caractère emprunté va se voir de plus en plus.
Mais est-ce que toute la grandeur, sans mauvais jeu de mots, du personnage de Lady Violet ne vient pas du fait qu'elle assume complètement cette grandeur empruntée, qu'elle en joue? Finalement, c'est un des personnages qui, le plus drôle peut-être de la série, en tout cas qui a le plus grand sens de l'humour, très british, toujours un peu au second degré, un understatement avec ces traits d'esprit qui viennent, ces petites pointes qui viennent piquer les gens autour d'elle qui sont autant de marques d'affection, mais c'est elle qui est le plus consciente que tout cela n'est qu'un rôle, n'est qu'un jeu. La différence peut-être de Carson qui semble victime de lui-même, elle le sait, c'est pour ça qu'elle peut en jouer.
Absolument, et c'est d'ailleurs ce que disait Tocqueville tout à l'heure, il y a l'orgueil aristocratique dans les grandes familles, et puis chez les serviteurs ça devient un petit peu de la vanité puérile. Et on voit que chez Lady Violet, effectivement l'orgueil aristocratique est à son comble, mais il s'accompagne d'un sens de l'humour absolument décapant, de traits d'esprit de saillies et de remarques absolument fabuleuses, et elle sait toujours qu'il faut jouer un rôle, qu'il y a un rôle à jouer, mais en même temps, elle protège l'esprit de famille, elle protège les femmes lorsque les femmes risquent de se voir déshonorées. Donc au fond, ce qui importe pour elle, c'est l'esprit de famille, c'est de garder les apparences à l'égard du village et des domestiques, mais en elle-même, elle n'est pas dupe, et d'ailleurs elle-même a un secret qu'on va voir dévoilé à la 5e saison, elle n'est pas dupe que tout est représentation, tout est rôle.
were dressed for a barbecue.
I feel like a Chicago bootlegger.
I don't even know what that means, but it sounds almost as peculiar as you look.
Robert, come quickly.
What is it?
Apparently the oven's broken down.
It can't have done. What does that mean?
To cut a long story short, it means we have no food.
Oh, funny clothes and no food. Should be quite an evening.
Thank you, Mother.
Robert, venez vite.
Qu'y a-t-il?
Apparemment, le four ne chauffe plus.
Ce n'est pas possible. Où en est le repas?
Pour faire court, notre repas devait cuire au four.
Oh, de drôles de tenues et rien à manger. Elle promet cette soirée.
Je te remercie.
C'est une catastrophe, surtout ce soir.
Rien n'est cuit. Et rien ne pourra être cuit.
Mais vous pouvez sûrement...
Renvoyons-les chez eux, c'est peut-être mieux.
Non, Gora, pas si vite, voyons. Ils sont venus pour une fête, nous allons leur offrir une fête. Carson, débarrassez la table, allez au garde-manger, remontez du pain, des fruits, des gâteaux, du fromage, du jambon, tout ce qui se mange. Nous allons faire un pique-nique à l'intérieur. Ils pourront manger ce qu'ils veulent, où ils veulent, dans toute la maison.
Êtes-vous bien certaine, madame?
Ce n'est pas vraiment comme ça que nous faisons d'habitude.
Vous parlez du siècle dernier?
Oh, acceptez, ça pourrait être amusant.
Je suis d'accord. Nous allons tous nous y mettre, ce sera très amusant.
Oui! Alors, oui, je sais ce qu'il nous faut. Quelqu'un qui joue du piano.
Oh, maman, c'est très exactement ce que nous ne voulions pas pour cette soirée.
Si ça signifie la fin de votre affreuse campagne, vous m'en voyez ravie. Bien sûr, c'est avec grand plaisir que je vous aiderai.
Oh, Dieu soit loué.
Oh, il semblerait que notre famille doive la survie de Danton ou Levinson, pas une fois, mais deux.
Non, vous m'en voyez désolée, mais vous ne m'avez pas comprise. Non, je ne peux pas préserver Danton. C'est dommage si vous le perdez, mais je ne peux rien faire.
Mais pourquoi pas?
Parce que ton grand-père avait décidé de bloquer l'argent. Il pensait que la famille Crowley en avait déjà suffisamment.
Vous avez dit que vous nous aideriez pourtant.
Je serais ravie de tous vous accueillir à Newport ainsi qu'à New York. Sinon, je peux donner plus d'argent pour la garde-robe de Cora, mais c'est tout. Mes revenus sont généreux, mais je ne peux pas toucher au capital. En plus, Marie, le monde a changé. Ces maisons ont été construites pour un autre âge. Es-tu vraiment sûre de vouloir te gâcher la vie à gérer tout ça?
Ah, la belle-mère américaine Martha, qui n'est autre que Shirley MacLaine, qui interprète la mère de Cora, qui propose de faire un pique-nique, puisque le four ne fonctionne pas, révolutionnant là pour le coup au sens fort du terme tout l'ordre établi au sein de Danton Abbey. Et bien qu'elle soit très riche, explique bien qu'elle ne peut pas donner l'argent nécessaire pour sauver le domaine, alors que déjà, honte aux Anglais qui doivent s'en remettre à une Américaine pour les aider, et en plus celle-ci impose son refus. On est là dans une scène extrêmement drôle également, c'est l'inspecteur, et qui, par jeu de miroir, mettant les Américains face aux Anglais, font ressortir tout le côté extrêmement figé de ces aristocrates anglais qui n'arrivent pas à évoluer, qui ne font qu'à reculons.
Oui, alors, la mère américaine, c'est à la fois une catastrophe et un révélateur. C'est-à-dire qu'effectivement, elle révèle le conservatisme, des mœurs figées de la société aristocratique, mais par son dynamisme, par la familiarité de ses mœurs, par le fait qu'elle n'a aucune manière, ce qui se traduit d'ailleurs par des détails dans la série, elle s'expose au soleil, elle dévore les aliments. Enfin bon, elle a absolument aucun savoir-vivre au regard des aristocrates anglais. Disons que ce personnage de Martha va révéler le fait que, ben voilà, cette société aristocratique est complètement inadaptée. Mmh. Et en un sens, elle les enjoint de se moderniser. Elle les enjoint, sinon, leur dit-il, ces aristocrates vont ressembler à une sorte d'espèce en voie d'extinction. Ils sont comme des animaux sur le point de périr, en un sens. Et donc, ce qui est très intéressant dans le fait que finalement, elle refuse de leur donner les moyens de combler leurs dettes, c'est qu'elle leur dit voilà, vous êtes voués à la disparition. Je veux pas, disons, investir mon argent à fond perdu dans une société de caste qui, de toute façon, est vouée à mourir. Et bon, c'est vrai qu'il y avait déjà la dette de Cora qui, en effet, avait été mal investie et qui, du coup, ne permet plus de subvenir aux besoins énormes de Downton. Mais disons que plus profondément, elle considère que c'est une société du passé. C'est une société qui n'a plus aucune chance de survivre. Donc, il me semble que c'est un personnage assez passionnant. Et il y a une scène extraordinaire à table avec Violet, avec donc Granny dont on vient de parler, où Violet dit mais tout ça, finalement, tout ce que nous faisons, c'est une question de goût et non pas de loi. It's a question of taste, not law. Et elle répond, it's not my taste. Et donc, dans cette phrase, elle révèle qu'elle ne comprend rien au sens du goût, de la politesse et des bienséances aristocratiques, parce que My Taste, déjà c'est une femme, en plus, bon, maintenant elle est veuve, donc elle n'a qu'à affirmer ses opinions, ses sentiments, ses idées, elle n'a plus aucun sens du respect des conventions.
Un grand merci Céline Spector d'être venue nous parler de Downton Abbey aujourd'hui.
Merci à vous.
Downton Abbey et Tocqueville, et j'espère qu'on aura convaincu les auditeurs de ce rapprochement qui fonctionne à bien des niveaux, qui donne envie à la fois de regarder à nouveau la série ou d'attendre la prochaine saison. On en a la cinquième, la dernière et sixième saison arrivera l'an prochain, et de relire Tocqueville. En attendant, on peut aussi relire votre dernier livre, Céline Spector, Rousseau, les paradoxes de l'autonomie démocratique, paru chez Michalon. Et c'est avec la voix de la cantatrice qui apparaît à la saison 4 de Downton Abbey que nous nous quittons, qui interprète du Puccini et qui s'appelle... Comment ? Kirite Kanawan, en train de me souffler le nom, je ne l'avais pas sous les yeux, qui est un morceau magnifique. C'est avec elle que nous nous quittons, enfin nous quittons pas vraiment, nous effectuons une transition nous aussi vers une forme de démocratie des deux minutes papillon. C'est Géraldine Mosna-Savoie qui vient de rentrer en studio. Bonjour à vous Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Au programme de vos 2 minutes Butterfly aujourd'hui.
Ah bah alors on n'est pas dans la démocratie ni dans l'aristocratie, on est en Grèce dans l'Antiquité avec l'essence du poil grec de Pierre Brulé qui est paru aux Belles Lettres. Dans le Parménide de Platon, Parménide justement demande à Socrate s'il existe une idée de la boue, de la crasse et puis du poil. Il lui demande par là s'il existe une essence, un modèle intelligible, non seulement des objets qui nous semblent les plus indignes, mais aussi des objets qui apparaissent dans une multiplicité de formes et à chaque fois particulières. Et c'est justement ce qu'indique le titre de cet ouvrage, il n'y a pas un sens du poil, mais des sens du poil. Des poils donc, je cite Pierre Brulé dans son introduction, du rare mais toujours inquiétant poil solitaire aux populations grégaires en toison, en touffe, en nappe ou en semis. Cet ouvrage dresse donc en 4 grandes parties un tableau de toutes les modalités du poil et de toutes les figures poilues de la Grèce antique. Le roi barbu Agamemnon, signe de courage, la belle chevelure blonde et bouclée d'Apollon, signe de beauté, ou encore Électre qui reproche à Hélène de ne pas se couper les pointes par coquetterie. Mais alors derrière cette somme, y a-t-il au final une idée du poil, de cette existence des sens, parvient-on à une essence du poil ? Eh bien, Pierre Brulé ne répond pas, ou plutôt, il pose cette question en toute fin d'ouvrage comme pour ouvrir son propos, ou pour peut-être éviter de donner une réponse qui a tous les écueils de l'idée, de l'essence, c'est-à-dire figer le poil dans une sorte d'éternité et dans une sorte de définition qui serait cachée derrière la multiplicité de ses incarnations. Et c'est peut-être justement cette absence de réponse, ou le fait d'éviter de donner un tel enjeu à ce livre qui est intéressant. Car ici, le poil, dans sa variété, mais aussi dans sa variété de termes et d'expressions, agit plus comme un signe, celui de la croissance naturelle des hommes et des plantes, ou celui de la virilité. Il y a un excellent passage sur la traduction d'un cœur viril, qui en grec ancien dit littéralement « cœur poilu ». Le poil, c'est donc ici une sorte de mythologie à la Barthes, le signe d'une époque pour qui avoir du poil révélait déjà tout un rapport érotique et même politique à soi.
Poil, P-O-I-L, rappelons-le. Alors le titre du livre, Géraldine ?
L'essence du poil grec, c'est de Pierre Brulé, c'est paru aux Belles Lettres.
Merci, on est très en retard alors. Je vous donne rendez-vous demain pour le chemin du vendredi où je recevrai Michel Tereschenko qui viendra vous parler de son livre « L'ère des ténèbres ». D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que toute celle de cette semaine, rendez-vous sur le site de France Culture. Vous pourrez les télécharger, les podcaster, les écouter où vous voulez, quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.